Genèveactive.ch.
Monsieur Roberto Brodini, comment a évolué Lissignol depuis 20 ans?
C'est une belle aventure depuis 20 ans. Peut-être qu'il faut aller remonter un peu plus loin, parce que comment est-ce qu'on est arrivé à Lissignol? C'est-à-dire qu'on participait à ce mouvement qui était le mouvement Squat à Genève, qui n'était pas une finalité mais qui était un outil pour développer un autre type d'habitat que celui proposé traditionnellement, c'est-à-dire chacun dans son petit coin et puis on s'en fout des voisins. Et puis nous, on avait justement une autre perception il y a 25 ans. On n'était pas les seuls. Et en 85, on a discuté avec les autorités de la ville de Genève suite à l'évacuation du squat dans lequel on était. Et puis on a élaboré les premiers contrats de préusage selon l'article. Les articles 305 et 311 du Code des obligations en droit suisse. Et donc, on a fait les premiers contrats de préusage. Et cette expérience s'avérant particulièrement fructueuse, nous sommes arrivés à la rue Lissignol pour signer les premiers baux associatifs en 1988-89. L'arrivée à Lissignol, c'est 88. La signature du bail associatif pour le 8 rue Lissignol, c'est en 1989, et maintenant, 21 ans après, on constate que ça fonctionne. Il y en a d'autres qui profitent de cette avancée. Il y a l'île 13, il y a d'autres gens à la rue Lissignol, comme le 1-3 Lissignol, qui sont toujours sous contrat de prêt à usage, mais qui vont se diriger vraisemblablement, si tout se passe bien, et ça c'est à la maire de la ville de Genève, Mme Serlerno, d'en décider, de pouvoir également mettre le 1-3 Lissignol en bail associatif dans une formule qui permet aux gens de vivre de manière, bon, bien sûr chacun avec son espace privatif, mais aussi avec des espaces communs, avec la possibilité d'avoir des espaces qui sont dévolus à la culture ou au sport ou aux rencontres, aux anniversaires, aux assemblées de quartier, aux assemblées de gens, etc. Et donc c'est un petit peu, je vous fais rapidement le topo comme ça.
Donc est-ce que c'est la finalité des squats de vouloir que l'occupation soit légalisée, ou est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une opposition au mouvement squat de un peu institutionnaliser l'occupation?
Mais écoutez, dans la constitution genevoise, il est écrit que chacun a droit à un logement. Maintenant, il se trouve que dans les années 1990, il y avait énormément d'immeubles qui étaient laissés intentionnellement vides par des spéculateurs. Spéculateurs promoteurs de différents académies, certains qui étaient d'ailleurs condamnés par la justice, je pense à Stombly, je pense à Lavizzari, etc., qui ont causé des préjudices énormes à la collectivité publique, parce que il y a quand même 5 milliards que la Banque cantonale de Genève a prêté à des spéculateurs qui n'ont jamais réussi à rembourser ces sous. Donc je pense que l'action qui avait été menée dans les années 80, fin septembre 80, début 90, justement ce mouvement de relocation forcée était légitime, il était sain pour le climat d'habitat dans la ville. Et c'est clair qu'actuellement, il n'y a plus d'immeubles vides, parce qu'on a quand même réussi, nous avons réussi avec ce mouvement à dénoncer ces spéculations éhontées, et que maintenant, il n'y a plus de logements vides. Donc c'est vrai que c'est maintenant, actuellement, c'est difficile de squatter un immeuble qui n'est pas vide. Quoique il y a des locaux commerciaux qui sont vides, qui étaient d'anciens logements, pour prendre le quai des Bergues actuellement, où il y a quand même toute une barre d'immeubles qui est complètement vide, qui étaient des logements à l'origine, qui ont été transformés en banques dans les années 60, 70, et qui maintenant sont toujours vides. Alors peut-être qu'on pourrait se poser la question de savoir et comprendre pourquoi on peut accepter, pourquoi M. Marc Muller, en charge du DCTI, département des constructions et technologies et de la formation, ne contraint pas ses propriétaires à remettre ses anciens logements sur le marché, retransformer des locaux commerciaux à leur vocation originelle, comme on a tous les études d'avocats ou les cabinets de dentistes ou médecins qui sont sur la ceinture Phasis, qui étaient des logements, où maintenant c'est des études de notaire, alors que c'est du centre-ville, et puis c'est là où on a besoin de se loger. Tout ça dans la perspective d'une autre mobilité, parce que si les gens habitent à côté de leur travail, mais ils ne prendront pas leur voiture, puis ils ne feront pas de bouchons, il n'y aura pas la pollution, il n'y aura pas le bruit, il n'y aura pas toutes ces nuisances qui sont endématiques à Genève.
Maintenant, ce n'est pas le même contexte, mais est-ce qu'il y a une volonté de diffuser ce mode d'habiter et quels seraient les leviers ?
Tout à fait. Il faut que les gens se rendent compte que c'est possible, que ces expériences sont viables et qu'ils puissent s'en inspirer pour justement dans différents types de contextes. C'est pour ça qu'on compte sur la construction de nouveaux logements, notamment sur l'ancien site d'Artamis, pour qu'il y ait aussi des coopératives ou des bois associatifs qui puissent être réalisés. Et on sait qu'il y en a plusieurs de bois associatifs qui existent, notamment à travers les baux que conclut la CODA, la coopérative pour le logement associatif, ou la CIGU qui est pour le logement pour les jeunes en formation. C'est pas que les étudiants, ça peut être aussi des ouvriers, ça peut être aussi des apprentis, et ça c'est important parce qu'on peut montrer qu'on peut loger différemment, et notamment pour les populations qui sont en formation. D'ailleurs, à la rue des Étuves, on a un immeuble qui est au 9 rue des Étuves, je crois que c'est le 9 rue des Étuves, qui est mis à disposition en logement collectif, où il y a des jeunes en formation, et puis ils sont absolument ravis d'être au centre-ville en payant un prix raisonnable, qui n'est pas gratuit parce que tout a un coût, mais un prix raisonnable, et puis où ils peuvent vivre en communauté, en collectivité. Surtout quand on est en formation, c'est assez agréable parce qu'on partage une cuisine, on a deux salles de bain, et puis comme ça on peut manger ensemble, on peut avoir sa piole pour y dormir, pour y travailler, pour faire ses études, mais on vit dans une ambiance, sachant que la structure familiale n'est plus au début du 21e siècle la même que celle qu'il y avait il y a 50 ans. Donc il est important de trouver des formules de logement qui puissent accepter justement ces nouveaux tissus urbains, ces nouvelles relations humaines, et puis que les gens ne soient pas seuls, et puis qu'ils sachent que je puisse avoir de la solidarité autour d'eux ou de la proximité, qui est important.
Mais dans quelle mesure est-ce que c'est pour tout le monde, ce genre d'habitat? Est-ce que finalement, si le squat finit en coopérative aussi, est-ce que ça ne serait pas la fin d'une utopie, puisqu'on inclut la notion de propriété à nouveau?
Les utopies sont une bonne chose. Maintenant, dans le logement, c'est comme dans l'habillement. Vous avez tout. Vous avez le t-shirt à 5 francs et puis vous avez le super polo à 250 francs. Donc il ne faut pas que l'un impose l'autre. Je pense que c'est important qu'il y ait une diversité. On doit avoir du logement associatif, on doit avoir du logement bon marché, on doit avoir du logement où on est propriétaire, on doit avoir du logement où on est locataire. Il faut qu'il y ait différents types de logements. Ce qui me semble, par contre, inévitable, c'est que ça a un coût. C'est comme quand vous allez chez le cordonnier, ben vous payez votre paire de chaussures. C'est comme ceux qui revendiquent les transports publics entièrement gratuits. Je ne suis pas forcément d'accord, parce que c'est comme pour le logement, ben ça a un coût. Après, maintenant, est-ce que la collectivité peut mettre à disposition des aides ou des subventions ou des facilités? Ça, j'en suis convaincu. C'est aussi à la collectivité de faire un effort. C'est comme la culture est subventionnée, mais quand vous allez au spectacle, vous payez comme un billet. Maintenant, il faut essayer de faciliter l'accès à la culture pour tous. Il faut faciliter, d'ailleurs c'est la constitution genevoise, tout le monde a droit à un toit. Donc il faut que les personnes qui gagnent le moins puissent aussi avoir des logements décents, et ça c'est extrêmement important.
Et justement, financièrement, ça se passe comment? C'est pour qui ce genre d'habitat? Est-ce que si on habite à Lissignol et tout à coup notre situation change, on gagne plus, est-ce qu'on doit payer plus? Comment ça fonctionne?
Écoutez, là, on est en train, avec les discussions que nous avons actuellement avec la ville de Genève, en vue de la du revisitage de notre bail associatif qui a 20 ans, nous serons alignés sur le règlement de la gérance immobilière municipale concernant les revenus, c'est-à-dire que si vous gagnez trop, ben, vous devez partir, vous devez prendre un loyer libre. Maintenant, si vous répondez à certaines conditions, vous pourrez être au bénéfice d'une aide au logement. Et puis si vous êtes juste dans la bonne moyenne, ben, vous allez payer le juste prix du loyer, du revenu, selon le plan financier qui a été établi, qui a été approuvé par la direction du logement. Maintenant, c'est l'office du logement. Et tout ça, bien sûr, sous contrôle des autorités tant municipales que cantonales, ce qui fait qu'il n'y a aucune différence par rapport à un locataire qui bénéficie des logements qui appartiennent à l'État ou à la ville de Genève, donc il n'y a aucun privilège, simplement que ici, nous avons des salles communes, nous avons différents espaces où les gens peuvent se retrouver, qui ne se trouvent pas dans un habitat standard, et où on développe aussi le logement sur la rue, c'est-à-dire que la maison ne s'arrête pas au pied du mur, mais déborde sur la rue, et puis la rue rentre dans la maison. Enfin, il y a une interaction sociale, urbaine, d'aménagement avec l'environnement. Ce qui est important, si vous regardez les enfants, j'aime beaucoup regarder les enfants dans la rue, ils se connaissent tous. Quand ils ont des problèmes, ils viennent voir l'un ou l'autre. Il suffit qu'il y ait un parent dans la rue pour les plus petits, pour les surveiller tous. Pendant ce temps-là, les autres peuvent être à la maison en train, je ne sais pas, préparer le repas du soir, lire un bouquin, regarder la télé, faire du repassage, ou strictement ne rien faire, j'en sais rien, chacun est libre, ou bien faire des études, ou bien etc. Et puis, quand on entend les parents depuis la fenêtre appeler leurs enfants à 7 heures parce que le repas est prêt, même des fois, plusieurs fois, parce que les enfants, ils aiment bien rester dans la rue, parce qu'ils s'amusent, parce qu'ils sont entre amis, eh bien, c'est plaisant, parce que et y a une sociabilisation des enfants qui est beaucoup plus grande, et des adultes également, parce que forcément, ça pousse au contact entre les uns et les autres, et ça pousse à des solidarités, à des co-responsabilités, et on a constaté, mais ça, c'est des études qui ont été faites dans différentes villes d'Europe, que dans une rue vivante, animée, les enfants sont beaucoup plus ouverts, enfin développent une socialisation beaucoup plus grande que s'ils rentrent tous les soirs après l'école à 4 heures, puis ils se plantent devant la télé jusqu'au repas du soir, puis après ils sont nouveau devant la télé, où ils n'ont pas de contact avec la vraie vie, ils ont contact avec un écran cathodique. Donc je crois que c'est aussi assez intéressant, sans les empêcher bien entendu de regarder un film quand ils ont envie d'en regarder un.
Comment vous définiriez les valeurs qui sont soutenues par l'habitat ici au Les Signoles ? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'essouffle ? Est-ce que les valeurs changent ? Est-ce que les habitants changent ?
Mais bien sûr qu'il y a une évolution. Quand vous avez 19 ans, et puis quand vous en avez 50, vous ne vivez plus la même chose. C'est évident. Mais les valeurs restent. Les valeurs de solidarité, d'entraide, d'utopie, vous avez utilisé ce terme tout à l'heure, on a toujours des utopies, bien sûr, même à 50 ans, on peut avoir des utopies. C'est important. Et simplement, c'est vrai qu'à 19 ans, vous faites un petit peu différemment votre vie que quand vous en avez 30 de plus. Donc, c'est vrai que c'est plus la même chose, c'est pas la même chose, mais quand je vois les enfants de la maison qui ont maintenant 20 ans, parce que les premiers sont nés il y a 21 ans et 19 ans, là les deux premiers, je m'amuse parce que j'ai l'impression, quand je les vois, de retrouver un petit peu nos 19 ans quand on a commencé à monter cette histoire, et puis ils s'en inspirent. Ils font différemment, ils ne sont pas d'accord avec nous, ils disent « ouais non, mais là, c'est des vieux cons ». C'est normal. Je pense que chacun doit avoir un espace qui lui est propre, qui peut être une petite piole, qui peut être un petit espace, je pense que c'est important. Maintenant, justement, avec ce que nous essayons d'offrir, et on l'a vu à travers l'ICBD, c'est qu'il y a une grande participation collective. Et cette grande participation collective permet justement d'éviter ce cocooning, ce qui n'empêche pas tout un chacun de se retrouver dans sa petite, je dirais, sa petite cellule d'habitat, hein, qui peut être plus ou moins grande. Hein. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait cet aspect collectif, cette participation à différentes actions, à la création de jardins dans la rue, à la transformation de la rue, à la fête annuelle de la rue, à la fête des voisins, parce qu'il y a plusieurs fêtes, en fait. Il y a plusieurs moments où les gens de la rue, et puis justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est pas que les deux immeubles, 1-3 Les Signoles et 8 Les Signoles, qui sont un petit peu, disons, singuliers dans cette rue, parce qu'il y a des habitants dans les immeubles traditionnels qui vivent dans une structure complètement traditionnelle, gérance immobilière municipale, un appartement, un loyer, une subvention, un truc, un machin, etc., qui participent maintenant à différentes activités. La dame d'en face qui descend avec ses 3 gâteaux. Et il y a cette application, et puis il y avait cette crainte. Quand on est arrivé il y a 20 ans, on était perçus comme des affreux voyous et profiteurs, etc. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était absolument pas le cas, qu'on payait un loyer comme eux, qu'en plus, on avait une capacité de proposer des activités, des animations dont ils sont ou peuvent être bénéficiaires. Et puis finalement, maintenant, 20 ans après, il y a des tas de gens qui disent « Bravo, comment est-ce que vous avez fait ? Nous n'avions pas le courage, parce qu'on était chacun seul dans notre coin, et puis on ne savait pas qu'on pouvait faire tout ça. Mais vous, comment est-ce que vous avez réussi à faire tout cela ?» Ils ont toujours un peu de peine. Certaines personnes ont toujours un peu de peine à le comprendre, mais c'est de l'investissement.
Roberto Brogeni, la situation a pu évoluer grâce à des hommes que l'on peut peut-être qualifier de providentiels, qui ont choisi la concertation plutôt que la répression il y a une trentaine d'années. C'était par exemple Claude Déguy et Guy-Olivier Segond, qui paradoxalement étaient aussi des hommes de droite. Est-ce que cette capacité d'écoute existe encore aujourd'hui? Bien sûr, vous êtes représentant de cette mouvance avec Les Signoles, mais est-ce que les contacts se font aussi d'une manière aussi volontaire et qui décide d'aplanir les conflits, de trouver des solutions?
Actuellement, il y a toujours des gens en politique qui sont de bonne écoute, heureusement. On a eu une chance extraordinaire de se retrouver avec Claude Déguy, Guy-Olivier Segond, qui étaient à l'écoute. Je pense que, de notre part, nous avons fait aussi un travail extrêmement important de convaincre nos petits camarades de pouvoir discuter avec ces gens-là, parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Non, non, les politiques, c'est tous des pourris, donc ça ne sert à rien de discuter avec eux, ils vont de toute façon nous avoir ». Et je pense que c'était deux côtés que ça s'est passé, parce que pour pouvoir discuter, il faut être deux.
Vous les avez un peu forcés au début?
Disons que nous avons été persuasifs. Contre jamais, mais persuasifs. Il faut se rendre compte qu'il y avait, à l'époque, Segond était président de la Commission fédérale de la jeunesse. C'était en 1985. Il y avait ces énormes problèmes qui éclataient à Zurich, à Berne, à Lausanne, avec Lausanne-Bouge, Jerry Brent, où il y a eu des morts. Il faut s'en rappeler, j'en ai connu malheureusement. Où il y a eu des terribles problèmes de toxicomanie qui se sont développés après avec le Letton et puis tout cela à Zurich parce qu'il y a eu cette répression complètement imbécile de la part des autorités politiques et policières. Et puis il fallait éviter absolument cela. Nous avions des contacts avec, bien sûr, nos amis zurichois, nos amis bernois, et on essaie de trouver une autre solution. On ne les a pas forcés. On leur a expliqué de manière assez claire qu'on était de bonne volonté, qu'on était là pour construire, et puis qu'on était là avec des projets, qu'on était là, et puis ils nous ont posé des questions, ils nous ont dit « mais comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça existe ailleurs ?» Alors on a trouvé des exemples, comment ça pouvait se passer dans des villes, notamment en Allemagne, on leur a présenté des projets concrets, et se sont dit « Ah ben on va quand même peut-être essayer ». Et moi je tiens à les remercier, très sincèrement, je recroise toujours parfois M. Segond et puis un peu plus souvent M. Egui. D'ailleurs j'ai failli écraser l'autre jour avec mon vélo parce qu'il était au milieu de la route avec son petit-fils. Puis il dit ouais, « Vous êtes un voyou, vous voulez m'écraser ?» Je lui dis « Mais c'est vous qui êtes un voyou ?» Puis les deux, on plaisantait, bien entendu, en toute cordialité, bien entendu. Non, mais c'était important et je crois que c'est une des leçons à retenir. Ceux qui n'ont pas retenu parmi les successeurs dans le mouvement squat, qui ont dit « Nous, on veut squatter pour squatter et puis de toute façon, on va gagner. » Ils ont tout perdu. Et ce n'est pas ça l'objectif. Nous, on ne squattait pas pour squatter, on squattait parce que c'était un outil. Et ça, je tiens à le dire. Et c'est cet outil qui est important. Et puis cet outil n'est pas une finalité. L'outil sert à arriver à une situation où on peut vivre la ville. Et vivre la ville, ça veut dire s'investir dans sa ville. Ça veut dire s'investir pour la ville, pour bien la vivre. Et pas de manière égoïste, mais de manière où on essaye de trouver des solutions qui peuvent amener justement à mieux vivre. Et c'est ça qui est important. Je crois que c'est ce qu'ils ont compris à l'époque, M. Egui, libéral, M. Segond, radical. Je crois que c'est ce qu'ils ont compris, c'est qu'on ne faisait pas de manière égoïste et individualiste, mais qu'on le faisait justement pour essayer de proposer à la collectivité des alternatives, enfin, ou une alternative pour le moins sur le logement, mais bon, comme vous pouvez le constater, on ne fait pas que le logement, on fait aussi de la culture, on fait aussi de l'urbanisme, entre guillemets. Hein. Et je pense que c'est ce qu'ils ont perçu, puis ils ont perçu cette ferme volonté de notre part d'aller de l'avant et proposer quelque chose, et puis pas juste contester, puis dire vous êtes tous des salauds, vous êtes tous des cons, vous êtes tous des pourris, et puis c'est nous qui avons raison.
Donc aujourd'hui, près de 20 ans, 21 ans après, l'expérience fonctionne. Et est-ce que votre expérience est connue? Est-ce que vous avez des demandes de renseignement, des gens qui viennent visiter les Signols? Est-ce qu'il y a un certain rayonnement?
Il y a, très modestement, les gens s'en inspirent. Je sais que, disons qu'une ou deux fois par année, je réponds à des élèves qui font leur travail de mémoire pour la maturité ou je sais pas trop quoi. Je sais que nous avons des contacts avec d'autres groupes. Bien sûr, nous avons des contacts avec à Genève avec l'Îlot 13, très fréquents. Nous avons des contacts très fréquents avec des structures que sont la CIGU ou bien la CODA. Nous avons ici héberger des gens qui étaient évacués par des squats dans des opérations de squat, etc. Donc on a fait preuve de solidarité en leur mettant à disposition des locaux, une partie des locaux, le temps de se retourner et de trouver d'autres solutions. Nous participons à ces différents mouvements. Nous suivons régulièrement ce qui se passe dans les autres villes, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs. On aime bien pouvoir transmettre ce qu'on a fait. Maintenant, on n'est pas des forcenés de dire « il faut que tout le monde vive comme nous parce que c'est la meilleure et la seule solution ». Absolument pas. C'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme d'habitat qui doit s'inscrire dans la diversité des habitats, comme certains préfèrent avoir une piscine et puis une Porsche dans leur garage. Il y en a d'autres qui préfèrent habiter de manière beaucoup plus modeste et puis plus urbaine. Voilà, donc on ne va pas empêcher le type qui a sa Porsche et puis sa piscine de vivre. C'est absolument pas ça le but. Là, il va y avoir la rénovation de trois immeubles à la rue de l'Industrie, aux Grottes, qui seront dévolus à l'habitat associatif, collectif, qui est mené par la ville de Genève. Donc ça veut dire qu'on fait des petits.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur Prodini, pour avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie de votre curiosité et puis votre bon intérêt pour notre bataille.
Genève Active.ch